dans leur perte d'emploi, c'est effectivement une assurance sur leur reclassement et sur leur maintien de salaire, une assurance qui les toucherait tous, c'est-à-dire aussi bien le salarié d'un grand laboratoire pharmaceutique qui fait une très grosse marge que le salarié du boulanger du coin qui va fermer parce que une grande surface vient d'ouvrir un point de vente de pain à 200 mètres de cela. Alors, dès lors que l'on pose ce problème de l'égalité de la protection des salariés face à la perte de leur emploi, ce qui d'ailleurs correspond au droit constitutionnel du droit à l'emploi, tout simplement. Dès lors que l'on pose ce problème, la dernière question qui reste à résoudre, c'est qui paye? Qui paye? Or, jusqu'à présent, tous ces débats-là tournent autour, finalement, c'est la collectivité qui paye. Bon, c'est la collectivité qui paye et pas du tout le secteur compétitif, le secteur privé, l'économie compétitive, c'est nous qui payons l'essentiel. Et par conséquent, il y a déjà des modèles là-dessus. Il ne faut pas penser que ce genre de réflexion soit particulièrement novatrice. Lorsque, par exemple, dans l'indemnisation des accidents du travail, eh bien, le Code de la sécurité sociale dit que cette indemnisation est à la charge uniquement des employeurs. Donc on sait qu'il peut y avoir un système où seuls les employeurs, seules les entreprises du secteur compétitif peuvent apporter leurs fonds pour satisfaire à cette exigence sociale. Pourquoi ne pas le faire sur les licenciements dès lors que dans cette affaire, les salariés sont les otages, je le répète, d'une compétition entre les entreprises?
Pauvre vol con. Vous êtes tous virés. Pauvre, pauvre, pauvre con du premier au dernier.
Les bénéfices, c'est vrai, c'est grâce à vous qu'on les a faits, grâce à vos efforts conjugués. De pauvres cons, mais il faut pas tout mélanger d'argent.
Martine Bullard, on continue avec le diplôme de ce mois de décembre avec un papier dans les blogs du diplôme sur la Chine. Mais ce que vient de dire Claude Jacquin, là, est-ce que ça a du sens pour un salarié chinois?
Ça a du sens parce que dans la loi chinoise, théoriquement, il est indemnisé. Le problème de la Chine, c'est pas tellement d'avoir des lois, c'est que les lois soient appliquées. Or, le problème, c'est que ces lois ne sont pas appliquées parce qu'il n'y a pas coupure entre le système politique et le système judiciaire. Donc, on n'arrive pas à avoir une application toute simple de la loi. Je viens de rentrer, effectivement, de Chine et j'avais fait un papier sur le site du Monde Diplomatique où, effectivement, on est dans une société dynamique. C'est pas la société grecque, évidemment. C'est pas les sociétés européennes avec les énormes difficultés qu'on connaît. Mais c'est en même temps une société extrêmement inquiète. Et la phrase que j'ai entendue le plus souvent au cours de mes rencontres en Chine, y compris de hauts cadres du Parti communiste chinois, c'est « on ne sait pas où on va ». Et ça, c'est relativement neuf, parce que c'est une société qui était sûre d'elle-même jusqu'à présent et qui pensait qu'elle irait loin très vite. Or là, elle commence à être inquiète. Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons économiques, des raisons sociales, des raisons politiques. Les raisons économiques, c'est la baisse des exportations. Les principaux marchés de la Chine sont les pays occidentaux, l'Europe et les États-Unis. L'Europe étant en crise et la plupart des experts que j'ai rencontrés en Chine s'attendant à une crise accrue de l'Europe, pas à tort, hein, comme on vient de le voir, donc pensent que les exportations vont continuer à chuter. Et ça, naturellement, ça les inquiète, même si les exportations n'étaient plus, contrairement à ce qu'on dit souvent, n'étaient plus tout à fait le premier moteur de la croissance chinoise. Le deuxième moteur de la croissance chinoise, c'était les investissements publics. Donc il y a eu un grand plan de relance, vous vous rappelez sans doute,